Alors, j'aimerais qu'on prenne un premier passage qui se trouve dans la Genèse, Genèse chapitre 3, et on va lire les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Quand on prend le livre de la Genèse, donc le livre du commencement, qui nous explique toute l'origine du monde, on voit que chaque détail est important. Il y a plein de détails dans ce livre qui sont vraiment précieux. C'est un livre qui a plein de sens. Et il y a notamment ce principe de la première mention. Quand Dieu mentionne une première chose dans la Genèse, souvent, eh bien, ce sujet ou cette pensée va se retrouver après dans toute la Bible. On va garder cette pensée. Et dans l'histoire de la chute, on voit le serpent qui va pousser Ève à désobéir et il va lui dire au verset 5, « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va planter dans le cœur d'Ève ce qui était à l'origine son propre désir, sa propre envie. C'est lui qui, à l'origine, voulait être comme Dieu. Il y a ce passage d'Ésaïe, je vous le lis, qui dit, il a dit lui-même, « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Et donc, il a eu cette ambition, cette volonté, et ce péché de vouloir se prendre pour Dieu et de s'élever au-dessus des nues. Et ici, dans le jardin d'Éden, il va pousser Ève à avoir ce même désir, cette même aspiration, être comme Dieu. Et Ève va mordre à l'hameçon, et puis son mari ne va pas faire mieux, puisque lui aussi, il va manger du fruit. Et on peut dire que depuis lors, ce désir d'être comme Dieu, il est dans le cœur de l'homme. L'homme y pense, l'homme y rêve, l'homme y croit, quelque part, qu'il pourrait être comme Dieu. Quand on regarde les hommes des temps passés, ceux qui étaient ambitieux, ceux qui étaient forts, qui avaient du pouvoir, qui étaient plus malins que les autres, et chaque fois qu'ils se retrouvaient dans cette situation d'élévation, eh bien, ils se prenaient pour Dieu. Le premier, c'est Nimrod. Voilà, il a élevé une tour, il a voulu monter jusqu'aux étoiles du ciel. Voilà, il s'est pris d'une certaine manière pour Dieu. Un autre, c'est Nebuchadnezzar qui s'est senti d'une certaine forme, d'un certain sens tout puissant lorsqu'il a regardé son palais, il a vu tout ce qu'il avait fait, toutes ses richesses, tout son royaume. Et à ce moment-là, eh bien, il s'est dit dans son cœur, c'est par la puissance de ma force et c'est pour la gloire de ma magnificence. Voilà, il s'est élevé là encore et puis on sait ce qui s'est passé. Il est tombé ensuite très bas. C'est vrai aussi pour le roi de Tyr lorsqu'il a dit « Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. » Alors c'est un roi humain qui a dit ça, mais en fait c'était aussi ce que Satan a dit, hein. Voilà, c'était aussi dans la bouche de cet homme, il était inspiré, mais mal inspiré. Plus tard, c'est Hérode qui s'est pris pour Dieu, il s'est revêtu de ses habits royaux, il s'est assis sur son trône, il a commencé à haranguer la foule, et la foule a crié « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Et vous connaissez la suite, Dieu l'a frappé par un ange. Et on voit que depuis l'origine, il y a quand même cette ambition, ce rêve, cette aspiration à être comme Dieu. Quand on regarde la Corée du Nord, avec donc Kim Jong-un, c'est ça? Non. Hein? Je ne veux pas me tromper parce que je voulais parler de son père. Donc c'est Kim Jong-il. Donc il y a un garde du corps qui a réussi à, à se sauver. Alors, il a tenté une première fois, il s'est fait capturer, il a fait 5 ans de goulag. Il a réussi une deuxième fois, il a pu se sauver. Et donc, il a été interviewé et il a dit que la garde rapprochée du leader subit un constant lavage de cerveau. Il explique ainsi avoir été amené à croire que Kim Jong-il était Dieu et que lui, son seul et unique but de sa vie, c'était de servir et de protéger le chef leader, le cher leader. Et donc, on voit qu'il y a encore des hommes sur Terre qui se prennent ouvertement pour Dieu et qui le disent « Je suis Dieu ». Maintenant, ce désir d'être comme Dieu, de grimper, de s'élever, il n'est pas uniquement pour les grands de ce monde, pour ceux qui ont du pouvoir ou qui ont de l'autorité. Malheureusement, même quelqu'un qui n'a rien, qui est pauvre, qui est démuni, qui est simple, sans pouvoir, eh bien lui aussi, il peut avoir cette pensée, voilà, je suis quelqu'un et il s'élève jusqu'à penser qu'il est Dieu. Il suffit de prendre un caïd d'une banlieue qui peut s'enorgueillir d'une manière assez folle. Mais pourquoi ? Parce que cette racine, elle est dans le cœur, c'est l'orgueil en fait. C'est l'orgueil qui pousse à avoir cette pensée où on veut monter, s'élever et devenir comme Dieu. Je lisais au sujet de l'un des frères Kouachi que dans le passé, il a fait un cambriolage. Cambrioler une banque avec deux complices. Ils ont réussi à prendre 25 000 euros. Il est parti sur une moto. Ils sont allés sur Paris. Et là, dans la foulée, il a braqué un débit de tabac. Et puis un deuxième. Et là, eh bien, il s'est fait pincer, flagrant délit. Et puis, il est arrivé à la casse-prison. Mais qu'est-ce qui a amené cet homme à faire un premier cambriolage, enchaîner un deuxième et un troisième? C'est l'orgueil. C'est se dire, mais c'est pas possible, ça a marché. Voilà. Et encore une fois, et encore une fois. Et on pense qu'on devient invincible, qu'on devient une certaine forme de Dieu, un petit Dieu. Maintenant, si vous prenez un homme honnête, quelqu'un qui a une vie droite, qui a une vie plutôt discrète, il peut se sentir aussi, d'une certaine manière, comme Dieu. Quand vous regardez toutes ces philosophies ou ces religions orientales qui sont venues, à partir d'il y a une quarantaine d'années, qui ont commencé à venir en Europe, il y a cette pensée encore ici. C'est ne cherchez plus à l'extérieur Dieu. Non, il est en chacun de nous. Il est là, il est à l'intérieur. Alors, on aurait une étincelle divine. Il faudrait la chercher en soi-même. Alors, il y a plein de belles phrases. Il faut que, eh bien, voilà, on se transcende, qu'on s'élève vibratoirement. On invente même des mots sur des octaves supérieures, sur des fréquences supérieures. On va parler du soi divin, du soi supérieur, du Dieu qui est en soi. Et puis, l'importance de laisser circuler les énergies, très important, d'ouvrir ses chakras. Et puis, voilà, on part dans toutes sortes de choses assez délirantes. Dans le bouddhisme, Dieu n'a plus sa place. Dieu, on l'a mis complètement de côté. Il s'agit plutôt d'atteindre l'éveil. Il faut atteindre la libération de soi. Donc, il n'est plus question directement de Dieu ou d'une divinité. Néanmoins, il faut parvenir au contrôle de soi. Il faut arriver au contrôle de soi, au contrôle de ses émotions, contrôle de ses désirs, contrôle de ses passions, de ses sentiments, un contrôle total de soi-même. Et donc, un bouddhiste accompli, normalement, c'est quelqu'un qui arrive à se contrôler parfaitement en toutes circonstances. Mais comment il y parvient? Comment il arrive à cela? La réponse est par lui-même. C'est par lui-même, par ses propres forces, par sa réflexion, par son détachement du monde, détachement de la matière, détachement des circonstances, détachement des éléments. Et dans cette situation, l'homme pense qu'il a un pouvoir. Il a un pouvoir sur lui-même, une capacité voilà, phénoménale de pouvoir se contrôler et se maintenir voilà, en toutes circonstances zen, dans la bonne attitude. Mais si on réfléchit, c'est une autre manière de centrer tout sur soi, soi, soi et encore soi. Et on revient avec cette idée que la force est en soi et qu'on a un potentiel extraordinaire. Il faut simplement savoir le laisser s'exprimer, se développer. C'est des phrases qui reviennent comme cela. Et subtilement, par un autre chemin, l'homme est amené à penser que ben, il est son propre Dieu qui peut eh bien, se dominer lui-même. Parfois aussi, la frontière de cette quête spirituelle n'est pas très claire avec l'occultisme. Parce que parfois, il s'agit de s'ouvrir, il s'agit de ressentir la nature. Il s'agit aussi de grandir à un niveau de conscience supérieur. Alors, certains vont faire une expérience avec des médiums, avec des astrologues. Alors, aujourd'hui, il y a un terme anglophone qui arrive, le channeling, voilà, être un channel, un canal. L'écriture automatique aussi. Et puis, pour le peu que quelqu'un s'avance dans cette direction, il y a quelque chose qui se passe, une expérience. Et là, c'est la révélation. La révélation, parce qu'on a l'impression que ça y est, maintenant, on est en communication avec le divin et on reçoit des informations, étant soi-même un dieu, quoi, un dieu. C'est toujours la même pensée qui revient, hein, curieusement, c'est toujours cette pensée-là. Une femme célèbre dans ce domaine a écrit un livre qui s'intitule « Je suis Dieu ». Rien que ça. Et en dessous, elle ajoute « Et vous aussi ». Voilà, nous sommes tous Dieu. Vous êtes Dieu, je suis Dieu. Maintenant, on change complètement de registre. On prend notre civilisation aujourd'hui athée, voilà, qui rejette la spiritualité, pas d'au-delà. Puis on part dans des théories de Darwin, avec des livres de Freud, de Nietzsche, « Dieu n'est plus, Dieu est mort ». Et pourtant, dans cette même société qui rejette complètement l'idée de Dieu, l'homme continue à rêver d'être Dieu. C'est toujours dans sa pensée, dans son cœur. Alors, ça va se traduire d'autres manières, mais ça va se traduire quand même, dans des rêves, finalement. Ça va se traduire par notamment des films fantastiques, des super-héros, des Spider-Man, des Matrix, je ne sais pas, voilà. C'est des super-héros, hein. Une capacité décuplée à faire des choses. Moi, de mon temps, c'était plutôt l'homme qui valait 3 milliards. Je ne sais pas si ceux qui sont plus de ma génération, hein, voilà, c'était l'idée que voilà, un homme qui peut faire au-delà de sa capacité, il peut être presque Dieu, quoi. Il peut entendre à distance, il peut savoir. Hein. On entend aussi, ça fait longtemps qu'on entend ça, que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Voilà, il y a cette pensée qui circule. Alors, dernièrement, Luc Besson a fait un film qui s'intitule « Lucie ». Alors, si vous lisez le scénario de ce film, ça tourne autour de ça. Il s'agit d'une, brièvement, pour, j'imagine beaucoup n'ont pas regardé ce film, il s'agit d'une femme qui se retrouve malgré elle embarquée dans un trafic de drogue, une nouvelle drogue. Et à cause d'un accident, eh bien, voilà, la drogue se diffuse dans son corps. Et là, miracle, de 10%, elle passe à 20% d'une capacité cérébrale. Et puis 30, et puis 40, et puis on augmente comme ça. Et la philosophie du film, c'est que nous sommes des êtres évolués et nous continuons à évoluer. Et nous allons aller, voilà, hein, par rapport au passé, et nous ferons encore mieux. Et finalement, 80%, 90%, 100%, elle arrive à 100%. Et 100%, ben c'est quoi? Elle est Dieu. Elle est Dieu. Elle peut se mouvoir dans le temps, dans l'espace, elle peut créer. Voilà, elle est devenue Dieu. Et c'est toujours cette même pensée. Toujours. Et il y a ce titre aussi, hein, Lucie, qui fait référence à Lucie, eh bien, cette prétendue première femme trouvée, etc. Et donc, la pensée, c'est venue du singe, appelée à devenir Dieu par l'évolution. C'est ça. Et vraiment, cette pensée, elle est partout. Elle est chez les grands, elle est chez les petits, chez les spirituels, chez les athées. Maintenant, est-ce que le christianisme est épargné? Alors oui. La vraie foi en Jésus-Christ est épargnée. Dieu soit loué. Hein. On sait où on est. Hein. On l'a vu tout à l'heure dans le psaume. Hein. Joseph nous l'a partagé. On sait où on est et on veut prendre notre place. Hein. Mais il y a des ramifications. Et il y a une ramification de la foi, en tout cas qui se revendique du christianisme, et qui dit « Vous serez comme Dieu ». Ça s'appelle l'Église des saints des derniers jours. En fait, les Mormons. Quelle est leur doctrine? Ça commence donc avec Joseph Smith, né en 1805 à Sharon, aux États-Unis. Il est fils d'une famille presbytérienne, donc il a accès à la Bible très tôt. Et vers l'adolescence, il commence à se poser plein de questions existentielles. Et puis, il lit un verset dans Jacques, que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, il la recevra, qui demande sans douter, etc. Alors, il prie que Dieu lui donne de la sagesse. Il va méditer dans les forêts alentour. Et là, il a une vision. Il voit Dieu, il voit Jésus-Christ. Il rentre chez lui et puis il a une autre vision, un ange qui vient lui dire qu'il faut qu'il trouve des plaques d'or. Alors il va mettre 4 ans finalement à trouver ou à se faire, je ne sais pas, ces plaques d'or. Le temps de les lire, de les déchiffrer et puis un autre ange vient lui prend les plaques d'or. Donc on ne les retrouvera plus, terminé. Et de là donc vient le livre des Mormons qu'ils offrent facilement à droite à gauche. Alors, pour résumer, c'est une nouvelle révélation. Toutes les églises chrétiennes du passé sont dans l'erreur, erreur complète. Et Joseph Smith, donc, c'est le prophète qui a été choisi par Dieu et c'est lui qui va ramener la vérité, la pure vérité pour tout le monde et le salut. De son temps, la polygamie est rétablie. Joseph est établi selon l'ordre d'Aaron, puis selon l'ordre de Melchisédek, quoique la Bible dit que c'est terminé après Jésus-Christ. Et puis, il va communiquer maintenant cette prêtrise à d'autres, afin que l'Église mormone et les prêtres puissent communiquer le salut. Puisque si vous ne passez pas par eux, vous ne pouvez pas arriver au véritable salut éternel. Pourquoi ? Parce qu'ils croient à la fois au Seigneur Jésus-Christ, première chose. Ils croient à la repentance, jusque-là, ça va bien. Ils croient au baptême pour la rémission des péchés, mais ils croient aussi à l'imposition des mains d'un prêtre, donc de l'Église des Saints des Derniers Jours, qui permettra à la personne de recevoir le don du Saint-Esprit. Donc autrement dit, si on ne reçoit pas l'imposition des mains d'un prêtre, eh bien on ne peut pas recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, hors d'eux, point de salut, il faut passer par eux. Il y a un apôtre mormon qui s'appelle F.D. Richard qui explique « La rédemption des péchés personnels ne peut s'acquérir que par l'obéissance aux exigences de l'Évangile et à une vie de bonnes œuvres. » Donc en fait, on revient à un retour par les œuvres. Un autre dit, l'ancien E.F. Paris dit « L'Évangile de Jésus-Christ s'appelle le plan du salut. C'est un système de règlement par lequel, si l'on s'y conforme, le salut peut s'acquérir. » Rien à voir avec l'Évangile. Rien à voir avec la foi en Jésus-Christ, où le salut est un don, c'est gratuit, c'est quelque chose que Dieu offre et on le reçoit par la foi en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Tout est accompli, il n'y a rien d'autre à accomplir pour être sauvé, simplement croire et le recevoir. Mais pourquoi je vous parle de ce mouvement, hein? Parce que l'une des erreurs les plus graves de l'enseignement de Joseph Smith, c'est celui qui est connu pour la progression éternelle. Alors, ouvrez bien vos oreilles parce que c'est assez hallucinant. Selon lui, Dieu fut un jour un simple être humain et nous, êtres humains, nous sommes appelés à devenir Dieu. Donc ça résume en gros. Ça vous rappelle quelque chose, hein ? Vous serez comme Dieu. On revient avec cette même pensée toujours. Alors, selon leur doctrine, Elohim, le père de Jésus, serait né sur une autre planète comme nous sommes nés nous-mêmes, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme. Il aurait acquis une grande maturité du fait de son obéissance au commandement du Dieu qui régissait la planète où il était. Puis il mourut, il fut ressuscité et élevé jusqu'à devenir lui-même Dieu du fait de son obéissance. Alors, eh bien, il lui fut donné beaucoup d'épouses avec lesquelles il engendra des êtres sans corps, on pourrait dire des esprits, selon eux. Et puis, ces esprits sont envoyés donc sur la terre, donc ce serait nous, dans un corps de chair pour être testés comme Elohim fut lui-même testé sur la terre où il était. Donc, c'est un cercle, en fait. Ainsi, le but d'un mormon, c'est de grandir en maturité par l'obéissance au commandement pour devenir peut-être un jour un dieu qui pourra régir une autre planète. Voilà. Si vous vous demandez, mais pour Jésus-Christ, alors il serait le premier-né des esprits désincarnés et il aurait proposé un plan de rachat pour l'humanité. Le conseil des dieux aurait accepté et c'est lui qui aurait été envoyé pour mourir pour les péchés des hommes. Mais le but final, c'est l'exaltation, c'est-à-dire le fait de s'élever jusqu'à devenir soi-même Dieu. Toutes ces informations, vous les trouvez, hein, il suffit de chercher un peu. Soit c'est en français, soit c'est pas en français, mais vous trouvez dans les écrits de Joseph Smith en anglais. Là, vous le lisez. Vous serez comme Dieu. C'est toujours cette pensée qui obsède l'homme et qu'on lui propose. On lui offre sur un plateau, mais tu peux devenir Dieu, viens, viens, c'est facile. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que Dieu dit véritablement? Est-ce que nous sommes Dieu ou appelés à le devenir? Alors non, l'homme n'est pas Dieu, l'homme n'est pas appelé à le devenir, il n'est pas appelé à le devenir par la méditation, ni même par le fait de tuer ses désirs ou bien d'obéir à des commandements, il ne pourra pas devenir Dieu, il ne deviendra jamais Dieu. Il y a un seul Dieu. Regardez Ésaïe 44, verset 6. Il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Je suis le premier, je suis le dernier, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul, l'unique, l'éternel, existant de toute éternité et pour toute éternité. Regardez Ésaïe 45, verset 5. La première partie. Il dit, « Je suis l'éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. » Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Deutéronome 4, verset 39. Il est dit, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y en a point d'autre. Il est le seul, il est l'unique, il est le créateur de toutes choses et il n'est jamais question de prendre sa place ni même de lui arriver à la cheville. C'est impossible. La créature ne peut pas devenir Dieu. On lit dans Jacques, cette parole intéressante, il dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Hein? Ils le savent, c'est bien clair. Et si la Bible le nomme l'Éternel, ou littéralement Yahvé, ou d'une manière littérale encore, on pourrait dire « Je suis celui qui suis », c'est parce que justement, il est de toute éternité, il est éternel. Avant la chute, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc, au commencement, Dieu a créé l'univers entier. C'est lui qui a tout créé, il n'y avait rien avant qu'il ne crée. Et le jour où il va rouler toutes choses, il est dit que, eh bien, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc voilà, on repart sur un nouveau commencement. Il n'est pas question de plusieurs dieux qui régissent plusieurs planètes autour de nous. Ensuite, pour ce qui est d'avoir la divinité en soi, il faut quand même mettre un bémol. On a été créé à son image, et c'est vrai, nous avons été créés à son image, et donc il y a quelque chose du Créateur en nous. Dieu n'habite pas naturellement dans le cœur de l'homme. Il n'habite pas à la naissance dans le cœur de l'homme, ça n'est pas. Parce que qu'est-ce qui sort du cœur de l'homme? C'est pas ses attributs de sainteté, de parfait amour, de bonté, d'humilité. Regardez Marc 7, 21-23. Jésus dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souille l'homme. Où se trouve Dieu dans ça, dans ces choses? Et la réalité, elle tend à prouver ceci, c'est que réellement du cœur de l'homme, eh bien, sort toutes ces choses, tout ce péché. C'est facile. Jésus a dit aux religieux de son temps, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. » Et la Bible ne va pas du tout dans ce sens, dans le sens de cette pensée rassurante, « Dieu est en vous, il est en chacun, pas de problème, pas du tout. » Au contraire, la Bible invite plutôt à une introspection et l'homme doit réfléchir sur son propre cœur et sur le fait que, justement, le péché est plutôt en lui. Et la solution, bien sûr, elle n'est pas dans une réforme de sa nature, que ce soit par la méditation ou même par la pratique des commandements. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est lui qui est la solution. Le Créateur est vraiment descendu, oui, mais il est descendu en Jésus-Christ et il est la solution. Regardez 1 Jean 3,5. 1 Jean 3,5. Il est dit, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. » Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Jésus est venu révéler le Dieu unique. Il est venu nous montrer le Père par une vie qui était sans péché, une vie parfaite, une vie pure, une vie miraculeuse, sainte, mais aussi par une mort injuste, mais qui n'a pas suscité en lui de murmures, de résistance ou bien de plainte. Le Dieu saint qui est unique, spirituel, éternel, invisible, immuable, infini, incompréhensible, omnipotent, omniprésent, omniscient, bon, sage, miséricordieux et aussi un Dieu qui est en trois personnes distinctes mais pourtant qui ne font qu'un. Il est unique. Ça, c'est ce que enseigne la Bible du premier verset au dernier verset. Voilà ce que Dieu dit dans les Écritures. Et le bonheur et la paix du cœur viennent pas dans le fait de devenir Dieu, mais plutôt de prendre la place que Dieu nous a donnée, d'être à notre position, celle que Dieu nous accorde. Il faut reprendre sa place légitime dans la création, celle d'être des serviteurs d'un Dieu qui nous aime et qui nous l'a prouvé en envoyant son Fils Jésus-Christ. On n'est pas Dieu et on ne le sera jamais. Mais si on prend cette attitude et cette place qui est humble, qui est petite, de créature devant ce Dieu qui est tout-puissant, alors eh bien, on peut le connaître, on peut avoir une communion avec la divinité, on peut s'approcher de lui, avoir une vraie relation avec lui. Et plus l'homme s'élève, plus il s'éloigne de Dieu. Et plus il descend, plus il s'humilie, plus il se rapproche au contraire de Dieu et de sa personne. Et j'aimerais, pour terminer, qu'on prenne Psaume 86 et les versets 9 à 12. 86, 9 à 12, il est dit « Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. » Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Et là, on voit dans ce psaume, d'abord que toutes les nations vont venir se prosterner devant l'unique, celui qui est Dieu, il n'y en a pas d'autre, toi seul, tu es Dieu. Et on voit aussi l'attitude du psalmiste, de David, qui descend, qui veut prendre cette position et qui veut voilà, être petit devant Dieu et le louer de tout son cœur. Et il dit, je te louerai à perpétuité, je te louerai pour l'éternité, parce que pour l'éternité, il est Dieu et il n'y en a pas d'autre. Il est le seul, il est l'unique.